sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 15h à 16h. Malgré le confinement, nous nous mobilisons contre l'épidémie de coronavirus. Notre mission à nous, c'est de continuer à vous informer, de répondre à toutes les questions médicales que vous vous posez. Et justement, il est là pour ça, tous les jours à mes côtés, même si on est à distance à présent. Bonjour docteur Jimmy Mohamed, comment ça va ?
Bonjour Mélanie, bah écoutez, ça va, c'est la fin de semaine, on espère que les effets du confinement vont enfin se faire ressentir d'ici lundi, donc il faut qu'on soit patient, mais pour l'instant, on tient bon.
Allez, au programme aujourd'hui, pour répondre à toutes vos interrogations, nous aurons bien évidemment des experts en ligne. D'abord le professeur Karine Lacombe, chef du service infectiologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Avec elle, nous ferons un point sur la situation actuelle, sur l'évolution de l'épidémie en France. Cet infectiologue nous donnera aussi son avis sur la chloroquine, le remède miracle soi-disant pour certains. Vous verrez qu'elle n'est pas tout à fait d'accord, elle reste très prudente. Les preuves manquent à ce stade selon elle. Après ça, nous accueillerons Jean-Marc Gabon de Peretti. Il est le fondateur de Hope Expert, qui est une plateforme d'écoute qui a décidé d'aider bénévolement ceux qui en ont le plus besoin. Leurs coachs bénévoles, donc, sont là pour soutenir les soignants et leur apporter un soutien psychologique. Il nous détaillera tout ça. Ensuite, c'est vendredi, veille de week-end, même si maintenant le week-end et la semaine, c'est parfois difficile à différencier, coincé chez nous. Mais on reste positif et on a pensé à vous. Il est très important de continuer à bouger pour rester en bonne santé. Alors, on vous a concocté un petit programme sportif adapté à faire chez soi. Alors, c'est pas le docteur Jimmy Mohamed qui l'a concocté, je vous rassure. C'est le coach sportif Vincent Martin qui sera avec nous pour vous l'expliquer. Et nous aussi, on chaussera les chaussures avec Jimmy, les baskets, c'est promis. Enfin, pour terminer, une petite touche de douceur à la fin de cette émission, comme tous les jours, avec notre sexologue Catherine Blanc, qui répondra à une jeune femme qui s'inquiète car depuis le confinement, son compagnon fait chambre à part.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, vous êtes avec nous par téléphone. Bonjour, professeur Karine Lacombe.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes chef du service infectiologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Et alors, avant de démarrer, on vous a déjà reçu la semaine dernière dans cette émission. Je crois que depuis la situation dans votre service, c'est pas vraiment arrangé, hein, c'est ce qu'on peut dire.
Non, bah effectivement, enfin comme dans tous les hôpitaux d'Île-de-France, depuis qu'on a de plus en plus de personnes atteintes du Covid-19, le nombre d'hôpitaux qui ont été inclus pour recevoir ces patients est de plus en plus important. Et maintenant, tous les hôpitaux de l'Île-de-France sont touchés, avec un grand nombre également d'hôpitaux de province, de région. Et effectivement, on voit surtout depuis 4 jours, une augmentation importante du nombre de patients qui arrivent par les urgences et qui sont hospitalisés, avec un grand nombre de personnes qui passent en réanimation. Et on a vraiment l'impression que, surtout, la sévérité du tableau clinique présenté par les personnes qui arrivent aux urgences est de plus en plus élevée.
Mais comment on explique ça ? Pourquoi il y a autant tous les graves qui arrivent maintenant ? On a l'impression qu'au début, ça a démarré, pas mal de formes bénignes, et puis on a l'impression que tous les infectiologues qui s'enchaînent derrière ce micro nous disent que c'est de plus en plus grave ce qu'ils voient arriver.
Ah mais c'est très simple en fait, c'est parce que le nombre de personnes avec des formes bénignes est considérable, hein. C'est probablement des millions et des millions, donc ensuite arrivent aux urgences les plus atteints, et donc c'est pour ça qu'on a un flux très important. Donc ça ne veut pas dire que la maladie est plus grave qu'avant, mais simplement qu'un plus grand nombre de personnes est atteinte. Quand vous avez 100 000 personnes qui sont atteintes ou 10 millions, vous voyez 2%, on va dire 20% de 100 000 personnes qui arrivent aux urgences versus 20% de 2 millions, on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. Et c'est ça qu'on est inquiet, en fait, inquiet pour la saturation de l'hôpital.
Docteur Jimmy Mohamed.
C'est-à-dire que là, pour l'instant, on ne sent vraiment pas les effets du confinement. On est en 11e jour. Est-ce qu'on peut espérer une amélioration si les gens respectent ce confinement d'ici quelques temps?
Ben en fait, vous savez, la durée d'incubation de la maladie, c'est à peu près entre 4 et 10 jours, avec des extrêmes à 14 jours. Donc si on doit commencer à avoir des effets, si le confinement était très efficace, ça va être au bout de 2 semaines à peu près. Donc là, on est au 11e jour et on s'attend encore pendant une petite semaine à ce que ça augmente de façon considérable. Et ensuite, quand on va arriver à ce pic, on va être en plateau si le confinement a bien marché. Mais on est quand même assez inquiet puisque le confinement, on l'a quand même fait au moins en 2 étapes. Et puis surtout, on a eu un exode massif de personnes des régions les plus touchées vers les régions les moins touchées quand l'annonce du confinement a été relayée. Et on pense qu'il va y avoir des foyers secondaires ailleurs en France, là où il n'en avait pas. Pour ça, cet exode massif, pour nous, c'est dramatique. C'est une très, très, très mauvaise idée.
Ceux qui parlent d'un pic de l'épidémie d'ici 6 jours, ça vous semble peu probable, c'est ça ?
Si, parce que là, on est à 11 jours de confinement, donc plus 6, ça fait 17 jours. Je vous ai dit, au maximum 14 jours d'incubation. Donc, on espère qu'on va atteindre le sommet à ce moment-là, mais ensuite, on va être en plateau.
Et que vous tiendrez surtout jusque-là dans les hôpitaux, quoi, c'est ça?
Surtout qu'on arrive à tenir jusque-là dans les hôpitaux, ça va être très compliqué. Et ça fait des semaines qu'on le dit, ça.
Martin Hirsch, le patron de la PHP, a fait un appel à toutes les bonnes volontés, car clairement la situation est déjà critique en Île-de-France. Vous avez déjà eu des renforts, je ne sais pas, des médecins retraités ou d'autres personnels qui sont arrivés justement pour vous aider?
Oui, beaucoup. Beaucoup. Alors en fait, il y a eu un lien internet qui a circulé pour constituer ce qu'on appelle la réserve sanitaire, et puis aussi un autre lien de l'Agence régionale de santé pour prendre les coordonnées des personnes qui n'avaient pas de compétences médicales à proprement dites, mais qui pouvaient mettre à disposition d'autres types de compétences logistiques, etc. Donc oui, on a déjà eu des renforts. Le problème, c'est que par exemple, pour les services de réanimation, c'est là où il y a le besoin le plus patent de professionnels de santé. On ne peut pas s'improviser infirmière.
Là, il faut des qualifications. Ouais, vraiment.
Donc, il faut avoir des qualifications et c'est de ça dont on manque. Donc, en fait, on recycle des infirmières qui ne sont pas de réanimation, mais qui ont un jour été en réanimation. Elles retournent en réanimation avec une formation rapide. Et puis, à la place de ces infirmières, dans les services cliniques standards, on emploie des personnes qui viennent de l'extérieur. Donc, il y a une espèce de ce qu'on appelle de procédure dégradée. Alors, ce qui ne veut pas dire que c'est moins bon que d'habitude, mais on est obligé d'embaucher des gens qui n'ont pas tout à fait les qualifications qu'il faut pour les postes, de façon à avoir assez de personnel. Donc, ça marche pas mal de puiser dans cette réforme, cette réserve.
Vous les avez déjà vus arriver, les renforts? Pas forcément exactement encore là où il faut, mais les renforts commencent à arriver.
Professeur Lacombe. Il y a énormément de bénévoles. Et vraiment, justement, je profite d'être à votre antenne pour remercier tous ceux qui se sont portés volontaires, et puis ceux qui n'ont pas encore osé ou qui n'ont pas su, eh bien portez-vous volontaire, vous verrez qu'il y a du travail pour tout le monde.
C'est, le message est passé. Professeur Lacombe, hier on a appris une terrible nouvelle, le décès d'une adolescente de 16 ans, une première à un âge aussi jeune en France. Alors dans le monde, je ne sais plus, vous allez nous dire peut-être, apparemment elle n'avait aucune fragilité particulière. Est-ce qu'on doit s'inquiéter finalement pour nos enfants, alors qu'on nous disait depuis le départ qu'ils étaient plutôt épargnés par ce virus?
Alors, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Tous les ans, par exemple, pour la grippe, il y a des enfants en bas âge, des adolescents qui meurent de la grippe, en nombre très petit, mais ça arrive. Avec toutes les grandes infections respiratoires hivernales, on a tout le temps des jeunes sans facteur de risque connu qui décèdent. Donc, c'est vrai que certains peuvent avoir des facteurs de risque inconnus, par exemple une susceptibilité génétique particulière qui n'arrive pas à se défendre contre les maladies. Donc ça, on ne le sait pas à l'avance. Heureusement, ça ne touche a priori qu'un tout petit nombre de personnes. Évidemment, à chaque fois, c'est un drame quand on perd une personne aussi jeune. Mais on doit s'inquiéter outre mesure, parce que ça reste des événements qui sont extrêmement rares. Et par exemple, en Espagne ou en Italie, où ils sont beaucoup plus touchés que nous pour l'instant, il n'y a pas eu de surmortalité observée chez les jeunes, chez les ados, les plus jeunes enfants. Oui, c'est rassurant.
Jimmy ?
Parce qu'on avait dit initialement que les enfants étaient vecteurs de la maladie, très vecteurs, très contagieux, j'ai l'impression qu'on fait un peu marche arrière, puisque les écoles étant fermées depuis 3 semaines, si les enfants étaient si vecteurs que ça, la maladie aurait dû peut-être se calmer un petit peu. Est-ce qu'on n'en a pas un peu trop fait parce qu'on manquait de données tout simplement chez les enfants et qu'ils seraient finalement pas si contagieux?
Alors oui, effectivement, ils sont probablement pas très contagieux, dans le sens où ils arriveraient à maîtriser la réplication du virus assez rapidement avec leur propre défense immunitaire. Donc en fait, ils sont très susceptibles d'être infectés, mais une fois qu'ils sont infectés, ils font des symptômes assez mineurs et finalement, ils n'ont pas de grosses quantités de virus à transporter. Donc c'est probablement pas un élément majeur de contamination. Mais la fermeture des écoles aussi, à aider au confinement. Ça, c'est aussi important, parce que le fait de confiner, de fermer les écoles, bien, ça fait que le personnel de l'éducation nationale reste chez lui, et pareil pour les parents. Donc, vous voyez, c'est un effet positif collatéral sur le confinement.
Merci, professeur Lacombe. On n'en a pas terminé avec vous. On se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, Sans Rendez-vous revient avec évidemment une émission entièrement consacrée aux questions que vous vous posez sur le coronavirus. Avec nous en ligne aujourd'hui plusieurs experts, l'infectiologue Karine Lacombe. Reste avec nous juste après pour répondre à vos questions évidemment. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Europe 1. Sans Rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans son rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h avec une émission toujours aujourd'hui évidemment consacrée à toutes les questions médicales que vous vous posez sur le coronavirus. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous interroger, ça se passe au 39-21, 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur. Alors justement, elle est toujours avec nous en ligne, le professeur Karine Lacombe. Vous êtes chef du service d'infectiologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Professeur Lacombe, on va tout de suite vous écouter une question d'auditeur. C'est celle de Nicole, on l'écoute.
J'ai entendu dire par une infirmière que les masques pouvaient être recyclés en les mettant au sèche-linge assez chaud. Je parle bien des masques chirurgicaux. Est-ce que c'est exact? Et si oui, pourquoi est-ce qu'on ne divulgue pas cette information? Parce que c'est hyper important, évidemment, si on peut les recycler, ne pas les jeter. Voilà ma question.
Professeur Lacombe, on a des questions très très pratiques. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à celle-ci.
Oui. Alors en fait, c'est vrai que le virus, quoi qu'on en dise, est un virus qui est très sensible à plein de choses. Par exemple, c'est un virus qui est sensible aux détergents standards, ne serait-ce qu'à l'eau et le savon. Extrêmement sensible. Et puis évidemment à tous les autres détergents, Javel, etc. Ensuite, c'est un virus qui est aussi sensible à la chaleur. C'est-à-dire qu'à partir de 30 degrés, le virus est complètement inactivé et n'est plus contaminant du tout. Donc on peut supposer que si on met des masques chirurgicaux à une température de 30 degrés dans un sèche-linge, ça devrait désactiver le virus. Après, ce que je ne sais pas personnellement et je n'ai rien vu dans la littérature à ce sujet, c'est est-ce que le fait de laisser des masques chirurgicaux à l'intérieur d'un sèche-linge pendant un certain temps,
les abîmer, surtout,
ne va pas altérer les capacités physiques du virus, la constitution physique du masque.
Bien sûr.
Donc ça,
vous ne conseilleriez pas de le faire quand même, ouais.
Non, parce que je pense que ça peut le rendre plus poreux et casser ses caractéristiques barrières contre le virus. Et en l'absence de données, moi, je serais tentée de ne pas faire ça.
Bien sûr. Merci. Alors, professeur Lacombe, depuis plusieurs jours, bon, je ne vous l'apprends pas, il y a une polémique autour de l'utilisation du traitement à base d'hydroxychloroquine, vanté comme le remède miracle par le professeur Raoult à Marseille. Alors que les preuves de son efficacité, on est d'accord, sont quand même loin d'être suffisantes. Finalement, le gouvernement l'a autorisé. Qu'est-ce qui s'est passé, là, concrètement? Nous, on n'y comprend plus rien, honnêtement.
Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est compliqué. C'était une discussion scientifique qui a été un peu absorbée par la médiatisation, parce qu'en fait, on est dans une atmosphère extrêmement anxiogène, angoissante, et tout le monde court après le remède miracle. Et beaucoup de personnes ont envie d'arriver les premiers avec le traitement qui va sauver la planète entière. Ce qu'il faut savoir avec la chloroquine, c'est un vieux médicament qu'on connaît très bien, qu'on utilise beaucoup en prévention ou en traitement du paludisme, donc qui est une maladie parasitaire. Et c'est aussi un médicament qui est utilisé dans sa forme hydroxylée, dans ce qu'on appelle l'hydroxychloroquine, comme un anti-inflammatoire pour les maladies inflammatoires toutes les maladies inflammatoires chroniques, donc au long cours. Et l'intérêt de ce médicament, c'est que on a montré que in vitro, c'est-à-dire dans qu'il pouvait désactiver du virus. En fait, il n'a pas une activité antivirale directe. C'est parce qu'il modifie l'environnement dans lequel évolue le virus, en particulier le taux d'acidité, et donc il tue le virus. Ce qui veut dire qu'il ne tue pas simplement le SARS-CoV-2, qui est responsable du Covid, mais il tue aussi plein d'autres virus, comme le chikungunya, la dengue, etc. Donc, d'où l'idée de recycler cette molécule pour traiter le Covid-19, pour traiter le SARS-CoV-2, qui est l'agent du Covid-19. Et donc, il est là pour le traiter chez les hommes. Donc il y a deux essais qui pour l'instant ont donné des résultats. Donc l'essai de l'équipe de Marseille et l'essai d'une équipe en Chine. L'équipe en Chine, il y a à peu près une trentaine de patients, un peu comme celle de l'équipe de Marseille. L'essai en Chine a montré qu'il n'y avait pas d'efficacité de la chloroquine. L'équipe de Marseille a montré qu'il y avait une efficacité de la chloroquine. Le problème, c'est que ces deux études, donc qui sont contradictoires, ont un petit effectif et ont aussi des biais méthodologiques, en particulier sur l'étude de Marseille, parce que par exemple, des patients qui sont morts dans le groupe qui a reçu la chloroquine, ils n'ont pas été comptabilisés comme des échecs de la chloroquine. Ils sont morts, on les a enlevés de l'essai. Il y a aussi des patients pour lesquels on n'avait pas de résultats.
Donc méthodologiquement, on comprend bien que pour l'instant, c'est pas très au point.
C'est compliqué. Et donc nous, on a simplement dit, attention, avant de donner un faux espoir aux Français, il faut être sûr des résultats. D'un côté, ça marche, il y a un essai qui dit que ça marche pas, de l'autre côté, un essai qui dit que ça marche. Alors Après, on dit, bah, de toute façon, on ne sait pas. Donc, si jamais ça devait marcher, autant qu'on ait donné ce médicament à grande échelle.
C'est pour ça que le gouvernement a changé d'avis et a dit, allez hop, on y va.
Donc, alors, ce n'est pas qu'il a changé d'avis. Le gouvernement, il n'a pas dit, vous pouvez en donner à tout le monde. Le gouvernement dit, mais comme d'autres médicaments dont on ne parle pas ici, hein, mais des médicaments qui sont un peu plus complexes, il a dit, pour l'instant, et ça, c'est pareil dans toutes les maladies, quand on n'a pas de traitement, on donne ce qu'on appelle un accès compassionnel en attendant d'avoir la preuve de l'efficacité des médicaments. Donc, la chloroquine, comme d'autres médicaments, bon, je ne vais pas vous donner les noms parce que ça ne vous dira rien, mais comme d'autres médicaments, eh bien, ont été agréés en usage compassionnel.
Dans des conditions très strictes.
C'est ça. Et la raison pour laquelle on dit la chloroquine, il faut la donner à l'hôpital, c'est que les personnes qui sont les plus à risque d'avoir des complications du Covid-19, ce sont ceux qui ont des maladies. Plein d'autres maladies, hypertension, de l'insuffisance cardiaque, etc. Et ces gens-là, ils ont d'autres médicaments. Et la chloroquine, elle peut interagir avec ces autres médicaments et entraîner des troubles du rythme cardiaque. Donc, quand on les donne comme ça à tous les gens, alors qu'ils ne sont peut-être pas très malades et qu'ils guériraient spontanément sans ce traitement, on peut les exposer à des interactions médicamenteuses et à des effets secondaires. C'est pour ça qu'on dit ce médicament, il est réservé à l'hôpital, parce que là, les patients sont hospitalisés, on peut les surveiller, on sait les médicaments qu'ils prennent, on peut regarder les interactions, etc.
Jimmy Mohamed,
vous voyez ? J'ai été claire.
C'était très, très, très clair. On vous a même pas coupé parce que je prenais des notes en même temps. J'ai trouvé ça parfaitement limpide. Merci, professeur Lacombe.
Ok, super.
C'était vraiment très, très clair et très passionnant. Et on comprend que les personnes âgées ou les personnes qui ont des comorbidités puissent décompenser et avoir des formes graves du coronavirus. En revanche, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est que des sujets jeunes, sans forcément d'antécédents, on a l'impression qu'ils font une forme de réaction immunitaire un peu explosive avec, notamment sur des images, alors c'est un tout petit peu technique, mais des images de pneumopathie organisée, des pneumopathies un peu particulières qui normalement ne répondent pas aux antibiotiques, comme s'il y avait une surréaction auto-immune du corps à cette infection virale. Et ma question, elle est plutôt simple. Est-ce que on n'explore pas la piste justement de l'immunité avec, je sais que c'est pour l'instant c'est contre-indiqué, mais je sais pas, des corticoïdes ou d'autres formes d'anti-inflammatoires qu'on pourrait associer à des antibiotiques, ou est-ce que c'est une piste absolument pas qui ne sera pas explorée puisqu'elle est trop risquée?
Ah non, mais vous avez entièrement raison. En fait, on voit bien dans le Covid-19 qu'il y a deux phases. Il y a une première phase qui est vraiment virale. C'est le virus qui se multiplie, qui attaque les cellules du poumon, voire les cellules de l'intestin, ou même les cellules du système... neurologique, excusez-moi. Par exemple, il y a des gens qui se plaignent d'avoir perdu le goût ou perdu les odeurs, vous voyez. Donc, le système nerveux, le système digestif et, bien sûr, les cellules pulmonaires. Donc, ça, c'est le virus. Donc là, on voit bien qu'il faut donner des antiviraux, des médicaments contre le virus. Et puis, ce qu'on a vu, c'est qu'à partir du 7e au 9e jour, les gens se débarrassent du virus, les malades se débarrassent du virus, grâce à une réaction inflammatoire. Mais le problème, c'est que cette réaction inflammatoire, elle s'emballe, et on a une énorme explosion inflammatoire qui est extrêmement toxique pour les poumons. Et c'est là que les personnes font des syndromes de détresse respiratoire. Et donc, on est en train d'évaluer l'effet de médicaments anti-inflammatoires. Donc, ce qu'on a vu, c'est que les corticoïdes, en fait, ça marche pas très bien. Dans d'autres cas de maladie des poumons, ça peut marcher, mais dans le cas du Covid-19, ça marche pas. En revanche, ce qui marche, ce sont des médicaments qui sont dirigés contre les protéines de l'inflammation. Donc, dans les protéines de l'inflammation, on en a plein. On a plein qui ont des noms un peu barbares.
On va pas rentrer dans le détail, des choses comme ça, voilà.
Et donc, il y a des médicaments contre ces protéines-là. Et il y a des essais qui sont en cours, et ces médicaments-là sont aussi en accès compassionnel. C'est-à-dire que quand on ne peut pas proposer ce médicament dans le cadre d'essais aux patients, on leur donne quand même parce qu'on sait qu'on n'a rien d'autre.
C'est dans l'essai Discovery, c'est ça ? C'est l'essai Discovery testent toutes ces pistes-là différentes ?
Oui, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est l'essai Discovery.
Ce que veulent savoir les gens, c'est dans combien de temps on aura vraiment les premiers résultats intermédiaires, on va dire ?
Les premiers résultats, alors les premiers inclus dans Discovery, c'était vendredi dernier. Et on va avoir les premiers résultats probablement une quinzaine de jours.
Ça va, c'est très rapide.
Les premières inclusions, donc probablement pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après.
On n'a jamais connu la science qui avance aussi vite, nous. C'est vrai que c'est incroyable.
En même temps, c'est une maladie qui est rapide. Je vous dis, les personnes peuvent mourir en 4 jours du Covid-19. Donc, évidemment qu'il faut qu'on aille vite. Mais il faut qu'on aille vite, mais en bon ordre. Pas n'importe comment.
Pas 100 fois ni loin. Merci beaucoup, professeur Lacombe, d'avoir été avec nous pour répondre aux auditeurs d'Europe 1 également. On vous laisse repartir sur le terrain auprès de vos patients. Merci encore. On reprendra de vos nouvelles la semaine prochaine, hein, surtout.
Entendu.
Tenez bon et bon courage. Merci.
Merci. Au revoir.
Dans un instant, votre émission Sans Rendez-vous revient. On l'a compris, les soignants sont vraiment déjà rentrés dans le dur de cette crise sanitaire. Beaucoup sont épuisés, certains même craquent déjà complètement. On voit beaucoup de témoignages d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Eh bien, une plateforme, Hope Expert, leur propose désormais du soutien psychologique gratuit. On va vous expliquer tout ça. Restez sur Europe 1. Son rendez-vous revient dans un instant avec les réponses aux questions médicales que vous vous posez sur le coronavirus. Mais avant ça, on va se détendre avec un peu de musique. De musique, je vous propose donc d'écouter l'excellente Clara Luciani. Ça s'appelle « Ma sœur ». C'était la chanteuse Clara Luciani avec son morceau « Ma sœur ».
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission santé. À mes côtés, toujours bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et on accueille tout de suite par téléphone Jean-Marc Gabon de Peretti. Bonjour.
Bonjour.
Alors je précise que vous êtes le fondateur de la plateforme Hope Experts. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette plateforme en temps normal, je dirais?
Alors, juste une petite rectification. Je suis le cofondateur avec Philippe Torel. Et qu'est-ce qu'Hope Expert ? C'est un collectif de professionnels, principalement des coachs, mais aussi des universitaires en psychologie et des managers. Et nous avons comme point commun le goût pour la psychologie positive en général et le thème de l'espoir en particulier. Voilà.
Parfait. Et... Ça tombe bien, on en a besoin en ce moment. Alors, depuis le début de l'épidémie, vous vous êtes justement mobilisé, votre plateforme et les professionnels qui vous entourent, pour les soignants, pour les écouter, les accompagner gratuitement, c'est ça ?
Alors voilà, nous avons ouvert cette initiative bénévole cette semaine. On a voulu anticiper pour être prêt au moment où, on va dire, le gros du besoin va s'exprimer dans les jours prochains, si on en juge par ce qui s'est passé précédemment dans les autres pays. Et cette initiative, fait appel à des coachs expérimentés qui ont l'habitude d'écouter les difficultés rencontrées généralement par nos clients dans les entreprises. voilà, comme par exemple des situations d'avant ou d'après burn-out. Et collectivement, il nous a semblé qu'il y avait une similarité avec ce que les professionnels de santé rencontraient actuellement. Voilà. Bien évidemment, c'est...
Oui. Oui, et du coup, c'est justement, c'est pour, vous êtes mobilisés pour les écouter, les accompagner, tout ça. C'est peut-être un peu déplacé de demander ça, mais c'est gratuitement ou il y a quelque chose à payer ?
Tout à fait, non, c'est un élan du cœur avant d'être comme toutes les initiatives aujourd'hui qui se font entendre. C'est un élan de, voilà, des 14 professionnels que nous sommes à rediriger vers les professionnels de santé. Voilà, cette proposition totalement bénévole. J'insiste, c'est strictement bénévole. Et gracieux.
Et vous le dites, ça s'adresse par exemple donc aux médecins, mais à toutes les professions, c'est-à-dire que même les infirmières, les aides-soignants, tout le monde peut vous, alors, tous ces professionnels-là peuvent vous appeler, c'est ça ?
Exactement. Vous êtes un professionnel de santé, vous en connaissez un, et vous allez directement sur le site, voilà, pour réserver une séance gratuite, voilà. Et quand on entend professionnel de santé, pour nous et pour vous donner un petit peu le périmètre, on entend bien évidemment tout le personnel intervenant en milieu hospitalier, mais aussi toutes les professions libérales que sont les médecins, infirmières, et aussi bien évidemment les personnels qui sont aujourd'hui dans des situations très particulières, notamment dans les EHPAD.
Bien sûr. Jimmy ?
Et combien de personnes sont des écoutants et quelle est leur formation ?
Alors, nous sommes tous des coachs formés avec une formation, on va dire, d'accompagnant. Mais ce que je voudrais relever ici, c'est il ne s'agit pas forcément dans cette écoute d'être dans une posture de coach habituel qui vise principalement à accompagner la personne vers un objectif, mais plutôt une écoute active pour l'aider, on va dire, à se décharger d'un poids. Et nous sommes, si la situation le rend nécessaire, c'est aussi notre métier que de savoir renvoyer vers d'autres compétences, à savoir des psychologues, psychiatres ou même son médecin généraliste. Donc on parle plus d'écoute que d'accompagnement.
Et vous avez déjà reçu des appels depuis le début de l'ouverture de cette plateforme pour les soignants ou pas encore ? Comment ça se passe ?
On a ouvert cette semaine et c'est vrai que on a des premiers appels, des premières demandes, mais il est vrai que quand on est dans l'urgence d'assister des personnes qui sont malheureusement dans des situations, l'écologie personnelle des professionnels de santé aujourd'hui est plutôt à assister plutôt que de s'assister soi-même. Donc je pense que petit à petit ils prendront
quand les organismes vont lâcher, quand le moral sera plus bas aussi, c'est là que ça va être plus utile, quoi, c'est ça.
Voilà, on est prêt pour accueillir, et pour écouter toutes ces personnes si elles le souhaitent. Et j'espère bien sûr que rien ne va lâcher. Mais
Jimmy.
La situation est si particulière.
Et du coup, quel genre d'appel on peut s'attendre à avoir ? Est-ce que ça peut être simplement lié à la situation stressante, lié finalement peut-être à la gestion, par exemple, de la mort d'un malade, ou finalement d'une situation intrafamiliale qui peut être difficile avec des soignants qui voient de moins en moins leurs proches ? C'est un peu tout et je ne vais pas dire n'importe quoi, mais le champ est très très large en fait.
Bien évidemment, le champ est très très large. Enfin, là, je peux pas vous dessiner le contour d'une journée d'un professionnel de santé. Je pense qu'on tente de l'imaginer, mais je pense qu'on ne soupçonne absolument pas le stress, la pression, et puis ce que vivent chacune et chacun dans les milieux hospitaliers et même ailleurs que l'hôpital ou la clinique. Voilà, toutes les personnes qui sont en assistance aujourd'hui sont sous une pression assez incroyable qui déborde d'ailleurs la journée. On a bien entendu que ça arrivait aussi à la maison. Enfin voilà, c'est quelque chose d'hors norme. Donc ce que nous nous faisons fort, c'est de l'entendre déjà. Voilà.
Comment ça fonctionne techniquement pour ceux qui nous écoutent, qui auront peut-être besoin de discuter dans quelques temps, ou qui connaissent quelqu'un, un proche, une infirmière, une aide-soignante qui est en train de craquer, qu'on a envie d'aider. On vous contacte comment ? Ça se passe où ? Donnez-nous toutes les bonnes adresses. Comment on fait ?
Je vous remercie. Alors, vous tapez HOPE, H-O-P-E comme l'espoir, et puis expert au pluriel, .com, et vous trouvez toutes les informations concernant cette initiative déjà sur la première page. Voilà, il y a un petit cercle vert, vous tapez dessus, il y a un PDF qui remet l'agenda public sur lequel on peut réserver des créneaux, et puis bien évidemment que nous allons adapter. On est conscient qu'on a posé pour l'instant des horaires, mais qui peuvent être redirigés en début ou en fin de journée, puisqu'on a bien compris aussi qu'il y avait des créneaux qui étaient quand même destinés à assister plutôt que... Voilà. Donc on va s'adapter aussi. Voilà. Et je voudrais aussi, puisque nous ne sommes pas les seuls coachs à avoir lancé de telles initiatives, il y a aussi celle des fédérations professionnelles, notamment celle initiée par l'EMCC, qui est l'European Mentoring Coaching Council, et que l'on peut retrouver sur le site emccfrance.org. Voilà. C'est important de citer tout cela. Voilà.
Parfait. Merci pour cette belle initiative. En tout cas, merci Jean-Marc Gabon de Peretti d'avoir été avec nous pour parler donc de cette initiative pour aider les professionnels de santé qui en auront besoin. Merci.
Europe 1.
Dans un instant, Sans Rendez-vous revient avec une émission toujours consacrée aux questions que vous vous posez sur le coronavirus. Et juste après, nous serons en ligne avec le coach sportif Vincent Martin. Et oui, parce que bouger, garder un corps en forme, c'est vraiment primordial malgré tout. Et surtout, même quand on est confiné, hein, c'est possible. Vous allez voir, il nous a concocté un petit programme sportif adapté à la situation. Jimmy a déjà chaussé ses baskets. À tout de suite, sur Europe 1.
Sans Rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et ses baskets pour votre émission santé. Alors depuis quelques jours, vous l'avez compris, on s'adapte, hein, on fait tout chez nous. Donc Jimmy va faire son cours de gym depuis son salon ou sa chambre, je ne sais pas exactement où il se trouve. Mais à présent, donc pour que les baskets servent à quelque chose, on accueille par téléphone Vincent Martin. Bonjour.
Bonjour.
Alors je rappelle que vous êtes coach sportif et responsable de l'expertise sportive chez Neoness. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous a demandé de préparer pour les auditeurs d'Europe 1 un petit programme bouger en confinement. On va y venir, mais d'abord préciser peut-être que le but là de ce que vous allez nous expliquer, c'est pas pour préparer les JO, hein, c'est juste pour qu'on se maintienne malgré tout en forme, hein, c'est ça ?
Oui, exactement. Le but là, c'est de maintenir des capacités physiques qu'on avait avant le confinement. Il ne faut pas chercher de faire de hautes performances ou chercher une progression, mais chercher à maintenir ses capacités physiques.
Parce qu'on est d'accord, se maintenir en forme, enfin, si on ne le fait pas justement, par exemple, on ne sait pas combien de temps on va devoir rester comme ça, confiné, 5, 6 semaines, peut-être plus. Il y a vraiment un risque, même si on n'est pas un grand sportif habituellement, pour son organisme.
Ah oui, bien sûr, il peut y avoir un risque déjà de fonte musculaire, donc qui vont entraîner des problèmes articulaires, des problèmes osseux, des problèmes tendineux. Mais il y a également un risque au niveau cardiovasculaire avec un manque de travail physique qui font qu'on va avoir une baisse de capacité cardiovasculaire et une baisse également de notre capacité à combattre ce virus.
Jimmy Mohamed, vous êtes prêt là ? Alors allez-y, hein. je vous ai
pas. Non mais c'est dramatique parce que je vous assure, juste avant le confinement, j'avais
vous
décidé de
m'inscrire
à la salle
déjà inactif avant,
de sport.
Mais alors là, oui,
non mais j'avais décidé de prendre ma vie en main. Je m'étais dit, je vais aller à Neoness, je vais prendre un abonnement. On en avait discuté avec Vincent Martin. J'étais prêt, j'étais chaud. Et donc là, c'est la catastrophe.
Oh zut.
En plus,
alors.
Vincent Martin, non mais j'ai l'impression que mon corps me lâche là en ce moment. Je prends du poids, j'ai pris 2 kilos.
Mais vous travaillez beaucoup.
Oui, mais malgré tout, je suis quand même moins actif que d'habitude, bizarrement, on prend du poids. Est-ce qu'il y a un risque, même pour les gens non souffrants, finalement, de se laisser aller, ou est-ce que c'est pas si grave si on fait encore moins d'exercices que d'habitude, là ?
Non, il faut absolument garder une activité physique minimale. L'idéal, c'est de faire 15 à 30 minutes de sport, une fois d'activité physique, du moins une fois tous les 2 jours. On n'est pas obligé de s'astreindre à trop d'activité physique non plus, hein, mais 30 minutes une fois tous les 2 jours.
On va vite passer à la pratique, justement. On va passer à la pratique, Vincent. Juste un petit mot avant, vous m'avez autorisé à en parler. Vous l'avez eu, vous, le coronavirus. Vous êtes sur pied depuis quelques jours seulement. Et juste un mot avant de commencer le programme. Attention, par contre, aux gens qui sont souffrants en ce moment. Vous avez fait cette erreur-là, reprendre trop vite le sport. Là, ce n'est pas du tout pour eux, hein, ce qu'on va dire aujourd'hui.
Ouais, exactement. Ouais, j'ai fait cette erreur de penser que j'étais guéri au bout de quelques jours. Et puis c'était pas du tout le cas. J'ai fait 20 minutes de sport et puis je me suis senti mal assez rapidement. J'ai eu un pic de fièvre qui est remonté très vite. Et c'est une erreur qu'il faut surtout pas faire. Il faut toujours être vigilant, prendre sa température plusieurs fois par jour. Ouais. Et puis en fonction des résultats. Et bien sûr de l'avis de notre médecin, voir si on peut reprendre une activité physique ou pas, quoi. Mais surtout
allez,
pas
on va commencer donc avec votre programme qui est en 2 parties finalement. D'abord il y a une partie cardio, parce qu'en fait vous, ce que vous conseillez, c'est du sport 1 jour sur 2, on va voir, enfin une activité physique, une partie cardio, une partie muscu entre guillemets. La partie cardio, donc pour moi le cardio ça veut dire footing. On fait comment quand on n'a pas le droit de sortir?
Il y a pas mal d'exercices qu'on peut faire chez soi. Bon, idéalement bien sûr si on a un petit espace extérieur, un petit jardin, idéalement c'est de le faire à l'extérieur pour respirer du bon air et puis être encore plus efficace dans ces exercices. Mais on peut le faire également dans un appartement, Donc il y a plusieurs exercices qu'on peut faire. Premier exercice qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle des jumping jacks. Vous savez, c'est l'exercice qu'on voit souvent dans les exercices que font les soldats. Donc on est jambes tendues, le dos bien droit. Et puis on va écarter les pieds. En même temps qu'on écarte les pieds, on fléchit un peu les genoux et on ramène les bras au-dessus de la tête. Vous voyez, puis après on revient à nouveau jambes tendues, le dos bien droit.
Avec ça, le cœur, il monte assez vite déjà.
Exercice. Le cœur monte assez vite parce qu'on sollicite un grand nombre de muscles. Et on va avoir pas mal de chaînes musculaires qui sont sollicitées et le rythme cardiaque qui va monter assez rapidement.
Donc alors, Dimitri Trépine, il veut vous poser une autre question. Allez-y, Dimitri.
Oui, est-ce qu'on peut, prendre des escaliers, par exemple, jouer avec avec nos enfants. Voilà, moi j'ai trois enfants. Allez, deux dont je peux me servir. Le dernier, il est tout petit. Il sert juste à me réveiller la nuit. Mais qu'est-ce que je peux faire avec eux comme exercice, par exemple?
On peut revenir, se replonger dans notre enfance et repartir dans tous les jeux qu'on pouvait faire dans la cour de récréation. Repartez à faire une balle aux prisonniers avec votre enfant, un chat perché, même un simple jeu de marelle, et vous allez vite vous rendre compte que vos enfants sont souvent plus en forme que nous. Donc juste à faire ces jeux-là avec eux 15 à 30 minutes par jour, ça nous permet déjà de faire pas mal d'activités physiques.
Merci Vincent Martin, vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, votre émission Santé revient avec la suite de notre programme sportif adapté à tous ceux qui veulent juste rester en forme pendant ce confinement. On prépare pas les JO aujourd'hui, promis. Des mouvements adaptés qu'on peut même faire quand on n'a pas de jardin ou quand on vit dans un tout petit appartement. Alors on sautille tous là pendant une minute. Enfin, on reste en forme, quoi. On se lève au moins. Et vous restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Europe 1. Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors lui aussi, il est toujours en ligne avec nous. C'est le coach sportif Vincent Martin. On entend les petits oiseaux derrière vous. Vous avez de la chance, responsable également de l'expertise sportive chez Neoness. Vincent, on va passer maintenant à la deuxième partie du programme. On a compris d'abord, il faut au moins un jour sur deux, on va dire. Enfin, un jour on fait du sport, un jour on n'en fait pas, un jour on fait du sport. Mais le jour 1, on fait du cardio, donc on monte les escaliers, on fait tous les exercices qui font monter le cœur. Et dans la deuxième partie, c'est le renforcement musculaire de notre programme sportif. Spécial confinement, c'est quoi le risque là au niveau de nos muscles, juste en 5 ou 6 semaines d'inactivité, on risque quoi, vraiment une fonte musculaire?
Oui, bien sûr, on risque d'avoir une fonte musculaire et il y a des zones qui vont fondre assez rapidement et qui sont assez dangereuses si on manque de tonus musculaire et de masse musculaire, par exemple au niveau du dos, au niveau du centre du corps, au niveau de la sangle abdominale, des lombaires, mais également au niveau des membres inférieurs.
Jimmy ?
Rester toute la journée, ou du moins une grande partie de la journée, devant la télé, inactif, peut entraîner une fonte musculaire assez importante, surtout sur plusieurs semaines.
Jimmy, vous qui êtes en train de fondre là, allez-y.
Ah oui, Lita, écoutez, pour le centre du corps qui habituellement chez moi est très développé et très musclé, sans faire trop d'activité, qu'est-ce qu'on peut faire chez soi, vu que désormais, j'ai plus accès à ma salle de sport préférée?
On peut faire des exercices qui sont soit des exercices statiques, qui vont nous permettre de garder nos muscles profonds, forts, et également des exercices dynamiques. Donc dans les exercices pour travailler nos muscles profonds, on revient toujours à notre traditionnelle planche que Jimmy adore faire sur des temps d'au moins 5 minutes, n'est-ce pas? Et puis nous avons également des exercices plutôt dynamiques, qui vont être par exemple ce qu'on appelle le mountain climber, où on va être en position planche, bras tendus, et on va alterner jambe droite, jambe gauche, en ramenant le genou vers le ventre.
Ça c'est pour le centre du corps,
c'est l'exercice qu'on peut pour le centre du corps, c'est ça, ouais.
Donc, vous m'aviez parlé des dunk kicks, c'est quoi les dunk kicks?
Vous pouvez être sur le dos, les bras le long du corps, la tête posée au sol. Vous montez les genoux pour avoir les genoux et la hanche alignée. Puis vous allez tendre une jambe devant, pointe de pied tendue. Et vous restez 2-3 secondes jambe tendue et vous changez de jambe en alternant. Donc le but, c'est de vraiment rentrer le nombril, d'être gainé vraiment au niveau du centre du corps et d'alterner ce mouvement de manière très contrôlée et très lente, et surtout de ne pas cambrer au niveau du dos. Si on cambre au niveau du dos, il faut monter la jambe un petit peu plus haut.
D'accord. Alors moi, c'est le bas du corps qui m'intéresse particulièrement. Je reste assise. Là, j'ai l'impression que mes cuisses doublent de volume chaque jour. Comment on fait pour rester ferme au niveau un petit peu du bas du corps, des cuisses, des fesses? Qu'est-ce que vous conseillez comme exercice? Donc, tous ces exercices, on rappelle, il faut les enchaîner dans une espèce de petite séance de renforcement musculaire qui durait 15 à 30 minutes, on va dire. Mais pour le bas du corps, on fait quoi?
Bah pour le bas du corps, pareil, on peut travailler de manière statique. Le fait de travailler de manière statique, on travaille les muscles profonds, mais on renforce également nos tendons. Donc c'est très intéressant de le faire. Donc on peut faire un squat statique, c'est-à-dire qu'on descend comme si on allait s'asseoir sur une chaise et on bloque, on ne bouge plus. Ou on peut le faire en étant aidé d'un mur, donc ce qu'on appelle la chaise. Pareil, en essayant de se challenger, en mettant un petit peu plus de temps à chaque fois. Ou sinon, on peut le faire de manière dynamique. Donc on peut enchaîner des squats, donc en descendant comme si on allait s'asseoir sur une chaise et en remontant. Et pourquoi pas le faire en rajoutant un petit saut à la fin. Donc on peut enchaîner ces trois manières de faire du squat totalement différentes.
Mmh. Jimmy,
La traditionnelle fente.
Le dos aussi, c'est très important, mais quand on n'a pas de matériel, on fait comment? Alors, je dois vous avouer que j'avais acheté un élastique avant le confinement, j'ai un petit peu honte parce que je m'en suis jamais servi, mais qu'est-ce que je pourrais en faire par exemple?
Alors, l'élastique, ça c'est un outil génial avec lequel on peut faire des dizaines et des dizaines d'exercices, et notamment pour le dos. Donc pour le dos, en fait, on va essayer de travailler deux parties qui vont être les rhomboïdes, qui est le muscle qui sert la colonne vertébrale, et puis les grands dorsaux et les deltoïdes antérieurs. Les deltoïdes antérieurs, c'est l'arrière des épaules. Donc pour travailler les rhomboïdes, on va placer l'élastique sous les pieds, bien le placer, hein, surtout qu'il ne revienne pas dans le visage, avoir les jambes légèrement fléchies, donc on est debout, jambes légèrement fléchies, on penche le buste légèrement vers l'avant en gardant le dos bien droit. On va prendre l'élastique et on va tirer l'élastique en longeant les coudes le long du corps pour ramener les poignets vers le thorax et relâcher doucement. Donc en ayant cette prise serrée, on va plus travailler le centre du dos, les rhomboïdes qui serrent cette colonne vertébrale. Le but, c'est vraiment de contrôler le mouvement sur le tirage, sur la montée et sur la descente. Ça, à nouveau, c'est l'exercice qu'on peut faire sur des séquences de 20-30 secondes et avoir 10-15 secondes de récupération entre chaque série. Ensuite, pour travailler donc les grands dorsaux et les deltoïdes antérieurs, on peut faire le même mouvement, sauf qu'au lieu d'avoir les coudes qui longent le long du corps, on va avoir les bras qui s'écartent au fur et à mesure où l'on monte l'élastique, pour se retrouver les bras quasiment tendus, un petit peu comme si on mimait un oiseau, et relâcher doucement à chaque fois l'élastique. Ça, c'est deux exercices qui sont intéressants.
On va faire l'oiseau alors pour garder un dos en pleine forme. Merci en tout cas pour tous ces exercices. On a compris la cardio, le renforcement musculaire. Un jour sur deux, ça suffit largement et on reste en forme pendant ce confinement. Merci beaucoup Vincent Martin d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Dans un instant, un peu de douceur, c'est la chronique sexo de Catherine Blanc. Mais avant ça, on se met un petit peu dans l'ambiance en musique avec un duo, Rihanna et Paul McCartney. Ça s'appelle 4-5 Seconds.
An optimist, sun was shining, I'm positive.
We can run, run.
Then I heard you was talking trash.
Talk about a mystery.
Hold me back, I'm about to spaz.
Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to be so selfish.
wondering where I've been. Now I know the drill tonight, thinking how could I be so reckless. But I just can't apologize, I hope you can understand.
If I go to jail tonight, promise you'll pay my bill. Today won't buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it right home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, oh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. Just trying to make it right home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, that's all I want.
Ça fait du bien ce duo, c'était Rihanna et Paul McCartney. C'était 4-5 seconds, 4-5 secondes, vous avez compris, sur Europe 1.
Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h pour une nouvelle émission spéciale consacrée au coronavirus. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints en ligne par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris, parce que on n'arrête pas l'amour, la sexualité pendant cette période de confinement, ça reste au cœur de nos préoccupations. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, effectivement c'est au cœur de nos préoccupations et heureusement voilà. Parce que nous sommes vivants.
Et vous continuez vos consultations j'imagine, d'ailleurs il y a plein
Absolument.
De questions qui se posent. Alors justement,
Absolument.
Des questions, nous aussi, on en reçoit beaucoup pour vous. Alors là, on a reçu une question d'Alice qui a 36 ans, je vais vous la lire. Depuis quelques jours, mon compagnon ne souhaite plus faire l'amour. Pire encore, il préfère maintenant dormir sur le canapé par crainte du coronavirus. Je trouve cela exagéré. Qu'en pensez-vous ? Catherine, on sait qu'avec le confinement et la pandémie, il faut se tenir à 1 mètre d'écart, ne pas toucher les autres. Mais bon, dans sa famille, avec son compagnon, quand même, c'est un petit peu excessif.
Alors, bien sûr, quelqu'un est malade. Mais en tout cas, ça permet de mettre en évidence les défiances que l'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres. Et c'est peut-être une bonne excuse pour se mettre à bonne distance quand on ne sait pas faire tenir les distances respectables en temps habituel et qu'on a le sentiment peut-être d'être étouffé par l'autre. Et c'est peut-être ce qui se passe dans ce cas-là.
Jimmy ?
Oui, est-ce que ça peut être parfois... Alors, autant je peux comprendre quand l'un des deux est malade qu'il faut du coup faire chambre à part, c'est même plutôt recommandé. En revanche, si aucun des deux n'a de symptômes, c'est peut-être un petit peu exagéré, non ? Ça traduit une angoisse particulière ?
Oui, c'est en fait toute la difficulté, c'est que ce couple, en l'occurrence, n'était pas un couple qui désirait et aimait follement faire l'amour l'un avec l'autre au quotidien avec un désir réciproque, mais sans doute déjà un déséquilibre dans leur désir de l'un vis-à-vis de l'autre, l'un peut-être très en demande et peut-être avec donnant un sentiment à l'autre, l'homme en l'occurrence, l'idée d'être mangé en quelque sorte par ce désir vorace exprimé. Et donc dans le cas du confinement, comme il n'y a pas de possibilité d'échappatoire, il n'y a pas de je sors voir mes copains ou je sors travailler, je suis là à la merci de l'autre qui attend de moi beaucoup et attend de moi sexuellement, et bien à ce moment-là l'angoisse d'être étouffé par l'autre se fait d'autant plus grande que le coronavirus donne une idée de contamination possible, d'étouffement aussi possible puisqu'on est bien dans le même type de symptômes et du coup ce ne sont que des constructions psychiques bien sûr. Consciemment, on peut tout à fait voir qu'il n'y a pas de lien de cause à effet, que de toute façon, si l'un, dans la mesure où les deux ne sont pas malades, si l'un est porteur, l'autre a tout lieu de l'être potentiellement aussi dans ce quotidien. Donc il n'y a pas lieu d'avoir plus peur que d'habitude, si ce n'est que ça donne une occasion de raconter sa défiance, sa peur de l'autre, ou sa colère quant à l'autre et son besoin de mettre... C'est intéressant aussi de vouloir mettre de la distance de lit quand il y a du confinement où on nous a nationalement interdit les distances. Et là, tout d'un coup, il faut comme étirer l'appartement ou la maison en se déplaçant pour essayer d'échapper à l'autre.
Mais comment doit réagir Alice, puisqu'elle nous pose la question quand même, parce que est-ce qu'elle doit accepter cette situation que lui impose son mari, son conjoint, parce qu'elle a l'impression, semble-t-il, de se sentir repoussée sexuellement, amoureusement par lui. Donc qu'est-ce que vous lui conseillez, comment elle doit réagir?
C'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité. Mais oui, plutôt que de vouloir absolument lui dire non, c'est le lit conjugal, tu reviens ici, coucou je panier, ce qui ne servirait évidemment absolument à rien, c'est plutôt de se dire que le sujet n'est peut-être pas de la sexualité, qu'il est peut-être ailleurs et qu'il y a des résonances sur la sexualité. C'est peut-être l'occasion de se poser la question, est-ce que tu te sens très envahi par moi? Et dans ce contexte de confinement, ça ne le met que plus en évidence. Est-ce que tu es bien sûr que c'est moi qui t'envahis ou autre chose? Peut-être que c'est son angoisse qui l'envahit, qu'il le projette sur sa compagne et que du coup il la fuit, mais c'est en tout cas toujours quand il y a des moments comme ça de désordre où on parle pas la même langue, plutôt que de se dire que c'est le sujet annoncé qui est le problème, c'est se dire qu'il y a certainement autre chose qui se dit derrière. Ça oblige du coup à laisser la sexualité bien sûr sur le côté, parce que il ne faut pas nier aussi une chose, c'est que dans ces périodes de confinement, ce sont des moments où le système nerveux est mis à rude épreuve aussi. Passé l'angoisse de la maladie, il y a aussi la réalité du système nerveux, de par l'horloge biologique, jour, nuit, etc., de tout notre système hormonal qui gère nos désirs en général de vie et de sexualité en particulier. Eh bien, tout ça peut être en difficulté. Donc, il peut y avoir quelque chose qui ressurgit de l'ordre de la déprime et que donc, c'est à ce moment-là qu'il faut se parler, prendre soin les uns des autres et peut-être laisser les urgences de la sexualité qui n'ont d'urgence que dans nos têtes, puisque nous savons très bien que nous survivons à l'absence de sexualité.
Bien sûr. Jimmy ?
Et finalement, s'ils dorment séparément, je ne sais pas, 2-3 semaines, et puis qu'en fin de compte, Alice, elle se rend compte qu'elle dort mieux sur son compagnon. Il ronfle beaucoup, et du coup, là, elle dort mieux, il prenait de la place, elle prenait la couverture. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, qu'on s'habitue à cette vie un peu presque de célibataire nocturne ?
Alors ça c'est sûr que de toute façon on ne dort jamais aussi bien que tout seul. Ça ne veut pas dire que dormir avec quelqu'un c'est dormir mal, c'est de toute façon faire avec l'autre, ce qui oblige à des compromis, y compris par exemple quand vous avez votre tout petit qui est malade et que vous le mettez contre vous, c'est absolument délicieux de l'avoir contre vous, mais on ne dort jamais aussi bien que quand on n'est pas en surveillance ou dérangé parce qu'on doit partager effectivement un bout de la couverture ou les bruits que émet l'autre. Donc bien sûr qu'elle pourra se rendre compte à cette occasion qu'elle dort mieux et que finalement cette soi-disant urgence ou ce besoin de l'autre n'était qu'une idée dans sa tête, puisque la réalité c'est que on peut tout à fait s'accoutumer merveilleusement de la tranquillité d'une nuit paisible. Ceci étant, c'est pas parce qu'on s'accoutume qu'on ne prend pas aussi le plaisir merveilleux de repartager, même déranger les premières nuits. Souvenons-nous de nos premières nuits échangées avec nos partenaires, pour ceux qui sont en couple. Eh bien, les premières nuits n'étaient pas des nuits où on dormait du sommeil du juste. C'était des nuits compliquées, où on dormait qu'à moitié, où on avait peur de faire du bruit, où on avait peur de déranger l'autre, etc. Donc, ce sont des chemins que nous avons tous parcourus, que nous saurons reparcourir dans un sens comme dans l'autre.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils toute cette semaine. D'ailleurs, on vous retrouve bien sûr lundi avec le docteur Jimmy Mohamed. N'oubliez pas, lundi, nous restons mobilisés, vous qui nous écoutez, et envoyez-nous vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, qui seront reversés à l'Institut Pasteur. À présent, je vous laisse entre de bonnes mains, celle de Mathieu Noël et son équipée sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, l'équipée sauvage arrive pour la dernière de la semaine, toujours confinée mais toujours motivée. Comme notre invité, j'aimais regarder sous les jupes des filles, et j'avoue que j'aime toujours regarder sous les jupes des filles, Alain Souchon sera avec nous en ligne, on prendra des nouvelles de son confinement.
Excellente émission à venir, j'en suis sûre, et vous, restez sur Europe 1.